Le débat du 7-10.
Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Débat ce matin autour des failles du suivi psychiatrique de l'assaillant qui a commis l'attentat terroriste de samedi dernier à Paris, dans le quartier de la Tour Eiffel. Attentat qui a coûté la vie à une personne et en a blessé deux autres. Un chiffre nous a interpellés avec Léa, 20% des quelques 5000 personnes suivies pour radicalisation en France souffriraient de troubles psychiatriques. Que penser de ce chiffre? Quelle doit être, quelle peut être la réaction de l'État? On va en parler ce matin avec Marie Dauzet, avocate au barreau de Paris, et avec Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur, pour ne citer qu'un livre, le dernier en date, de l'encyclopédie du crime au cinéma, publié chez Grunt.
Bonjour à tous les deux, merci d'être là. D'abord, cette déclaration de Gérald Darmanin, il y a eu un ratage dans le suivi psychiatrique du suspect de l'attentat de samedi dernier. Il faut désormais une injonction administrative de soins et même pouvoir la prolonger, voilà ce qu'a dit le ministre. C'est vrai que l'assaillant souffrait de troubles psychologiques, que son suivi avait été levé au printemps dernier, mais est-ce que l'explication du ratage psychologique est suffisante à vos yeux? Alain Bauer.
Alors d'abord, il y a un problème, c'est qu'il est passé à l'acte alors même qu'il avait été interpellé, condamné, suivi, resuivi, qu'il avait respecté toute une série de dispositions qui concernaient à la fois son suivi judiciaire et son suivi médical, et qu'un médecin avait décidé qu'il n'était plus utile de continuer le traitement, que 3 ans avant, ce qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec l'élément, mais ça a été donné par le ministère comme argument, il n'avait pas été autorisé à une perquisition chez lui par les services de renseignement, et que malgré tout il est passé à l'acte, alors même que sa mère avait donné une alerte. Et donc je crois que le problème n'est pas le ratage dans le suivi, mais pourquoi n'y a-t-il pas eu une réaction appropriée à l'alerte donnée par la mère, dans la mesure où elle-même n'a pas voulu procéder à une hospitalisation sous contrainte, elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et je crois que le ratage, si ratage il y a, n'est pas un ratage. C'est un défaut de coordination et de cohérence dans un système qui fonctionne en tuyau d'orgue, où quand on est dans le système renseignement, on est suivi en fichier ou FSPRT, le fichier spécifique radicalisation terrorisme. Quand on est condamné, on est suivi d'un point de vue judiciaire. Après la condamnation, on peut avoir un certain nombre d'injonctions de suivi, de contraintes, de contrôle et un suivi médical. Puis quand tout ça est terminé, c'est terminé, vous n'êtes plus condamné à rien, il n'y a pas de raison de vous suivre particulièrement, vous ne donnez pas d'indication A, il est donc naturel qu'il ne se passe rien. Mais quand vous avez une alerte, il n'y a pas de dispositif qui permet, en cas d'alerte, de se dire « Ah, quand même, ça n'est pas un individu ordinaire, ça n'est pas juste quelqu'un qui a une petite crise. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, faire ce qui existe au Royaume-Uni, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, trouver un dispositif où tout le monde puisse se parler pour que le médical, le judiciaire, le familial, le renseignement et l'antiterrorisme puissent dire « Là, il y a peut-être un sujet de dangerosité particulière. »
Marie Dauzet, le suivi psychologique, l'explication de Gérald Darmanin est peut-être nécessaire, mais est-elle suffisante?
Non, et puis elle me gêne en fait, parce que elle sous-entend que la cause directe du passage à l'acte serait l'absence de prise en charge psychiatrique. J'écoutais Hugo Micheron il y a quelques
lundi
à votre micro. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il y a à la fois un parcours, il y a un engagement et il y a des troubles. Mais c'est multifactoriel. Le passage à l'acte est nécessairement multifactoriel. Donc c'est étrange, vous voyez. Dernier passage à l'acte, on a expliqué que c'était lié à un problème d'immigration. Aujourd'hui, c'est lié à un problème de psychiatrie. Moi, ce que je sais, là, aujourd'hui, c'est qu'il existe moult dispositifs. Entre l'injonction de soins, la mesure judiciaire de prévention de la récidive pour les terroristes, la loi de juillet 2021, le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, l'hospitalisation d'office, l'hospitalisation d'urgence, la panoplie de mesures existe. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette personne, elle a été suivie sur une durée presque égale à la peine d'emprisonnement qu'elle a purgée. À un moment donné, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas. Donc bien sûr qu'on peut se dire, la mère avait alerté, elle aurait peut-être dû solliciter une hospitalisation d'office, mais c'est compliqué. En attendant, on ne va pas pouvoir surveiller jusqu'à la fin de leur vie ces personnes qui sortent des détentions, alors même que les dispositifs, là, ont été jusqu'au bout.
C'est important ce que vous dites, parce que c'est la question qui va se poser dans les prochaines années, puisqu'on sait déjà que chaque année, je crois qu'il y a 3 ans, il y en a 78 qui sont sortis.
Une centaine par an.
L'année dernière, 350. Hein.
Oui, c'est ça. Mais ça va
cumulativement. Donc, il y a aujourd'hui 500 personnes qui sont sorties ces 3 dernières années, globalement.
Le taux de récidive est très bas.
Très bas.
Il n'est pas inexistant, mais il est extrêmement bas, puisque au cours des dernières années, je crois qu'on en a, en comptant le père Hamel dans une considération où ce n'était pas un condamné, donc c'est un réitérant plus qu'un récidiviste, mais on en a un ou deux. Ce qui est difficile à expliquer, c'est que c'est incompréhensible et inaudible pour les familles des victimes. Au-delà de la réaction politicienne, où tout le monde grimpe dans les tours assez rapidement, ici et là, il y a quand même un sujet. Et ce sujet, il est, à partir du moment où vous n'êtes pas en train de surveiller tout le monde, mais vous avez une alarme de quelqu'un qui est très proche, l'absence de réponse à cette alarme-là, même si la mère ne veut pas aller, pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs, mettre son enfant à l'asile psychiatrique, c'est quand même pas plus simple, surtout vu l'état de la psychiatrie en France, qui est quand même le parent le quasi... Déjà, dans le service public, tout ne va pas très bien, mais alors...
Oui, mais la psychiatrie,
c'est vraiment un désastre.
Ouais. Bon.
Mais il y a là un enjeu où il n'y a pas de réponse compréhensible ni claire, alors même que c'est quelqu'un de la famille qui donne l'alarme, l'absence de réponse à cette alarme pose un problème de, non pas création d'un nouveau dispositif, je suis d'accord avec Marie Dosé, il y en a une foultitude, mais ils fonctionnent assez indépendamment les uns des autres.
Il faut une meilleure coordination.
Dès qu'on a sorti de la partie purement pénitentiaire et contrôle judiciaire, et qu'on entre dans une logique purement médicale et qu'on dit, bon, bah, tout va bien, mais que vous avez une alerte, en fait, la réponse à l'alerte n'est pas aujourd'hui proportionnée à la nature de l'alerte. Ça ne veut pas dire que ça aurait empêché quelque chose, le risque zéro n'existe effectivement pas, mais la réduction du risque est une possibilité qui existe, et il y a là un enjeu qu'il faut savoir considérer. On l'a vu d'ailleurs dans des tas de dossiers précédents, chaque fois on a amélioré les dispositifs. Quand vous vous droguez pour commettre un acte et que vous essayez, après que vous êtes irresponsable, il y a un débat. Ça se traduit par une modification de la loi, on en pense ce qu'on en veut, mais il y avait une question et les experts,
donc
d'ailleurs,
étaient très divisés. Il y a un angle mort là
qui est, vous arrêtez de vous soigner avec l'accord de votre médecin.
Qu'est-ce qu'on fait avec vous
quelqu'un
quand vous êtes...
Quelqu'un proche vous dit, attention, il va mal. Pourquoi il n'y a pas une réponse adaptée à la question,
et tout de même,
qui est une réponse médicale?
Ouais, sur ce chiffre de 20% de...
20 à 30.
Ouais, 20 à 30 des quelques 5000 personnes suivies pour radicalisation qui souffrent de troubles psychiatriques. Ce chiffre, Marie-Zosée, vous étonne? Vous fait sursauter?
Là, c'est compliqué, troubles psychiatriques, d'accord, ouais. C'est-à-dire que ces personnes ne sont responsables pénalement. Il était responsable pénalement. Son discernement n'était pas aboli et visiblement, il n'était même pas altéré. J'en sais rien, je n'ai pas la copie de ce dossier. Mais force est de constater que la grande majeure partie, si ce n'est la quasi-totalité de ceux qui sont condamnés, de celles et ceux qui sont condamnés pour des infractions à caractère terroriste, sont responsables pénalement et qu'il n'y a pas de difficulté sur leur discernement. Ensuite, il y a des troubles psychologiques, des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques qui existent. L'important, c'est comment les prendre en charge, notamment en détention. Souvent, en détention, le suivi psychologique, il aide à supporter la violence de la détention. Et c'est tout. Ils n'aident pas à aller mieux, à comprendre, à essayer de construire quelque chose, à essayer de passer à autre chose, à essayer vraiment de travailler
d'être
sur...
D'être désidéologisé, c'est ça que vous dites en fait.
Alors il y a des programmes qui existent et on en discutait.
Le programme PERS,
c'est une réussite. Moi je le constate.
C'est quoi le programme
PERS? Le programme PERS, c'est toute une équipe qui va investir pendant des mois le quotidien, la vie quotidienne, la psychologie, le rapport à la religion de quelqu'un qui a été condamné pour des faits à caractère terroriste. Mais dans sa sortie
également... Et ça marche.
Ça fonctionne.
Parce que c'est vrai que c'est la question que posait l'attentat de samedi, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des vrais repentis? Est-ce que, quand vous avez été endoctriné dans cette idéologie extrêmement prégnante, est-ce que vous arrivez à en sortir?
Partout dans le monde, quand il y a un programme... Alors, je n'utilise pas le mot radicalisation ou déradicalisation, parce que ça ne veut rien dire.
Vous l'appelez comment alors?
Djihadisation ou dédjihadisation, engagement ou désengagement, sortie de la violence, on a toute une série de d'outils. On en parle d'ailleurs souvent avec Hugo Micheron. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut comprendre d'ailleurs les motivations, car on est dans le sur-mesure et pas dans le prêt-à-porter, la diversité des explications, dont certaines reposent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la politique ou la religion, mais par exemple la misère sexuelle, sujet prégnant et massif dans les revenants d'Afghanistan, par exemple.
La misère sexuelle, expliquée.
La capacité à...
Non mais ça je sais ce que c'est, mais expliquez pourquoi voilà. C'est...
Eh bien parce que ça crée une frustration, et que dans la frustration, le passage à l'acte militant, parti au djihad, c'est devenir un homme, avoir un harem à disposition, une maison et éventuellement un petit chat à mettre sur Facebook, eh bien ça change l'idée qu'ils se font, c'est leur télé-réalité personnelle. Et c'est pour eux enfin devenir quelqu'un. Et donc, quelqu'un, ça passe aussi par, vous voyez, il y a des filles à disposition. Ce sujet est sous-estimé, mais il est très prégnant. Donc, quand on commence à regarder les conditions et les modalités diverses du passage à l'acte, l'engagement purement politique ou purement terroriste ou purement religieux, la gestion d'une autre frustration qui n'a rien à voir avec ce qui précède, mais qui enveloppe. Là, c'est le débat entre Kepel et Roy, djihadisation de...
L'atmosphère.
Il y a l'atmosphère, c'est la djihadisation au sens de la salivisation générale vue par Kepel. Et Roy dit, oui, c'est un problème personnel, et ils s'enveloppent dans cette djihadisation pour expliquer leur passage à l'acte, mais ils seraient passés à l'acte en rouge, en vert, en jaune, en bleu, ou en n'importe quoi. C'est ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Et s'ils sont pris en considération, ça donne plutôt des résultats. Et le programme PERS, par exemple, donne plutôt des résultats.
Marie
mais comme tout programme... Il peut y avoir, hélas,
des
trous dans la raquette. Le vrai problème, c'est quand le trou dans la raquette aurait pu être prévenu parce que quelqu'un a dit alerte.
Le programme PER, il existe depuis 2018. En octobre 2022, il y a 255 personnes qui sont passées par le programme PER et il n'y a eu aucun cas de récidive. Sur ces 255 personnes.
Non mais c'est
quand même, il faut
franchement,
l'entendre parce qu'on
il y a rarement des bonnes nouvelles.
On ne l'entend
et ça fait
jamais.
Plaisir.
Oui, mais la difficulté, elle est là. C'est aussi une responsabilité politique à chaque fois. Que de considérer, de faire considérer et d'indiquer à la population que le dispositif actuel n'est pas suffisant. Il y a eu un passage à l'acte, donc on va pouvoir anticiper le prochain passage à l'acte en créant une nouvelle réforme, en faisant adopter de nouvelles mesures. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et il serait bien tout de même que on réfléchisse à ce qui existe et qu'on donne des moyens à ce qui existe. Il y a une tribune très intéressante d'Arthur de Nouveau, là, qui a été publiée dans Le Monde hier. Arthur de Nouveau, qui est quand même le président de l'association de victimes du terrorisme Life for Paris, qui explique qu'il serait temps de cesser avec le réflexe de l'émotion, le réflexe émotionnel, et de travailler plus en amont et plus profondément sur les dispositifs qui existent. Parce que ça fonctionne. Et encore une fois, si on a comme seul focus le risque zéro, c'est irresponsable.
C'était merci. Passionnant.
Passionnant. Merci Marie Dosé, avocate au barreau de Paris, Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM. L'encyclopédie du crime au cinéma, publiée chez Grunt.